La suite de notre série de grands entretiens spéciaux tous les jours jusqu'à jeudi. Une tête de liste aux européennes est au micro de France Inter. Avec Alexandra Ben Saïd et Yaël Gauz, nous recevons aujourd'hui celui qui conduit la liste du Rassemblement National pour ces élections, Jordan Bardella. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à notre micro ce matin. Hier soir en Autriche, c'est l'ensemble des ministres du FPE qui ont démissionné. C'est la débâcle après la vidéo montrant le chef du parti et vice-chancelier autrichien prêt à brader un faux oligarque russe une partie de la souveraineté de son pays contre de l'argent. Par ailleurs, Steve Bannon, invité vedette du congrès fondateur du RN en mars 2018 à Lille, était en tournée médiatique en France. Lui veut planter un pieu au cœur du vampire européen. Alors dans le vaste mouvement de recomposition politique en cours dans l'Union européenne, avec de tels amis et de tels alliés, on ne comprend plus Jordan Bardella. Voulez-vous réformer ou démembrer l'Union ?
C'est un peu les gentils contre les méchants, là, votre vision non. assez binaire des relations internationales. Non, écoutez, ces élections européennes, elles sont évidemment majeures. Il y a un enjeu national et Emmanuel Macron s'y implique, donc on en reparlera. Mais en fait, il y a deux visions de la construction européenne qui s'affrontent. C'est-à-dire que soit aujourd'hui, on continue d'aller à marche forcée vers le fédéralisme. On continue de transférer des leviers de pouvoir et des leviers de souveraineté toujours plus importants vers la Commission européenne. Soit on décide d'entendre les peuples, qui sont aujourd'hui une majorité à souhaiter cette grande coopération entre États, cette grande coopération entre les nations, partant du constat que les disparités, notamment économiques, sociales, entre les pays sont beaucoup trop importantes. Moi, je fais ce second choix. Et moi, je crois dans un monde multipolaire où nous avons des relations équilibrées avec l'ensemble des grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation, à commencer par les États-Unis et à commencer par la Russie.
Mais la France a ses relations, c'est bien ça ? Ou c'est l'Union européenne comme puissance ?
Mais la réalité, c'est que l'Europe a inventé les nations. Or, aujourd'hui, cette Union européenne, elle se construit sans les nations. Elle est la négation même des nations. Moi, je considère que entre certains pays de l'Union européenne, il n'y a parfois pas les mêmes intérêts. Nous n'avons parfois pas les mêmes intérêts que l'Allemagne, par exemple. Et donc, il est essentiel que nous ayons une sorte d'Europe à la carte, avec des projets entre États. Et c'est ce qui a fait Ariane, c'est ce qui a fait Airbus, c'est ce qui a marché par le passé. Mais encore une fois, il ne faut pas s'interdire de parler aux autres puissances.
Mais vous voyez bien, Jordan Bardella, que vous êtes à une poignée de main de gens qui ont d'autres visées, qui sont proches de la Russie, c'est ce qu'on voit dans l'affaire autrichienne, ou en tout cas qui s'imaginent prêts à troquer une partie de leur souveraineté contre de l'argent russe. Vous avez Steve Bannon, qui est également l'un des proches de votre mouvement, qui veut
qui
affaiblir...
Qui a été le directeur de campagne
bien sûr,
de Donald Trump.
Et qui veut affaiblir l'Union européenne, il n'en fait pas mystère. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça ?
Mais il veut l'affaiblir. Il veut l'affaiblir. Ça, c'est votre point de vue. Mais
il le dit très clairement.
Non, mais
l'Union est un vampire, un pieu dans le cœur.
Si vous voulez effectivement qu'on continue,
ça ne veut pas dire la renforcer.
Non, mais aujourd'hui, l'Union européenne.
Moi, je veux rien. Je vous pose juste la question.
C'est l'impuissance collective. Vous me parlez de l'Autriche. En l'occurrence, on parle de l'un des membres du FPE au pouvoir qui a fait 25% lors des élections législatives, qui a commis une lourde erreur pour laquelle il en a tiré les conclusions puisqu'il s'est retiré de la présidence du FPO et qu'il a démissionné de son poste de vice-chancelier. Maintenant, ça n'enlève rien au fait que les Autrichiens ont voté à 25% pour le FPO parce que l'Autriche fait face à de graves difficultés, notamment sur la question migratoire, et c'est la raison pour laquelle le FPO a été porté au pouvoir aux côtés du chancelier Sébastien Kurz. Les États-Unis de Trump, on nous avait annoncé le chaos lors de l'élection de Donald Trump. Moi, ce que je constate, c'est que l'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée, que on crée tellement d'emplois aux États-Unis qu'on a même plus de main d'œuvre pour les occuper, à tel point que les mesures protectionnistes qui ont été prises par Donald Trump avantagent même les pays voisins puisque vous avez vu que Trump souhaite que 45% des importations mexicaines se fassent à condition que les salaires mexicains soient augmentés de 1 à 4 euros. Donc en réalité, toutes les grandes puissances aujourd'hui qui marchent dans la mondialisation sont en train de tourner le dos au libre-échange total, au libre-échange dérégulé, à cette ouverture sans limite des frontières qui est finalement un vieux dogme, un dogme des années 90. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances économiques font du patriotisme économique, font du protectionnisme et défendent leurs intérêts et leurs marchés publics, mais ce qui ne les empêche pas de coopérer avec les autres nations. Mais il faut être capable de défendre ses intérêts.
Yael Gauz.
C'est l'un des mots préférés au Rassemblement National, le mot patriote, patriotiste contre mondialiste. Qu'est-ce qu'un patriote, Jordan Bardella ?
Le patriotisme,
le patriote, c'est quoi?
Le patriote, c'est celui qui aime son pays. C'est celui qui aime la terre de ses pères, la terre qui a été léguée par ses ancêtres. Et en l'occurrence, un patriote, c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Quand nous défendons le patriotisme économique, c'est-à-dire la priorité pour nos producteurs, nos éleveurs, nos entrepreneurs dans la commande publique, eh bien, c'est cela, être patriote en matière économique.
Est-ce que votre colistier Jérôme Rivière, numéro 19 sur la liste, ou votre collègue député Louis Alliot sont des patriotes quand il négocie au Bristol avec Steve Bannon, qui lui-même est un ancien conseiller de Trump.
Qui négocie quoi?
Qui parle de la campagne, qui cherche...
D'accord, donc parler de la campagne électorale...
Conseiller pour lever des fonds, conseiller sur les réseaux sociaux, conseiller en communication politique...
Mais en fait, vous avez une vision extrêmement rabougrie de notre pays. En fait, vous voulez voir notre pays comme isolé sur la scène internationale. Moi, j'ai envie d'un pays qui parle avec les autres puissances. Alors, si vous voulez vous interdire de parler avec les États-Unis de Trump, si vous voulez vous interdire de parler avec les autres nations européennes ou avec la Russie de Poutine, c'est votre droit.
Est-ce que le numéro 2 du gouvernement autrichien est un patriote? Est-ce que l'ex-numéro 2 du gouvernement autrichien, Strache,
mais
est un patriote.
Je viens de vous répondre, il a commis une lourde faute pour laquelle il a été sanctionné. Maintenant, n'ayez pas cette vision rabougrie de la France. On nous a expliqué pendant des années que nous étions isolés, que nous étions tout seuls, que nous voulions remettre des barbelés. Je constate effectivement que c'est aujourd'hui une contradiction, puisque nous avons effectivement des discussions avec l'ensemble des pays du monde avec lesquels nous aurons vocation à travailler demain. Mais pardon, mais quand M. Obama a appelé à voter dans une vidéo pour M. Macron, second tour de la présidentielle, on n'a pas entendu parler d'ingérence. Quand Benalla négocie des contrats russes à l'Elysée dans la pièce d'à côté du bureau du président de la République, on ne nous a pas parlé d'ingérence. Quand le parti de Mme Loiseau et de M. Macron au Parlement européen, la LDE, est financé par Google, par Microsoft, par Bayer Monsanto, par Uber, on n'entend pas parler d'ingérence. Donc je note que l'ingérence, c'est un peu à double mesure dans la classe politique et médiatique.
Alors à propos de financement, Jordan Bardella, aujourd'hui c'est interdit, mais en 2014, le Rassemblement National, il a contracté un prêt, plus de 9 millions d'euros auprès d'une banque russe. D'une banque russe, donc est-ce que vous l'avez remboursé intégralement ce prêt? On est 5 ans plus
tard. Non, à ma connaissance, il n'a pas été remboursé intégralement.
Combien a été remboursé?
Je ne sais pas, vous inviterez Valentin Saint-Just, le trésorier du mouvement, qui vous renseignera sur ces...
Vous connaissez pas les finances de votre parti?
Pardon de ne pas être venu avec le bilan comptable du...
Vous êtes tête de liste RN, vous ne connaissez pas l'état des finances du parti?
Je connais l'état des finances de la campagne électorale pour laquelle je suis tête de liste. J'imagine que vous ne connaissez pas non plus, vous, les finances de France Inter et de l'ensemble du service public audiovisuel.
C'est que la banque, elle a fait faillite. Et en fait, ce qu'on peut se demander aussi, c'est aujourd'hui qui détient le prêt, par exemple.
Mais madame, ça ne vous choque pas que, alors que nous étions en 2015 et que nous sommes, d'après les sondages, le premier parti de France, qu'aucune banque française n'ait souhaité prêter au Front National à l'époque?
Si vous n'avez pas entièrement remboursé, c'est peut-être que les conditions sont particulièrement favorables.
Ce qui me choque, mais vous avez le droit de ne pas être choqué, moi ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, les partis d'opposition ne trouvent pas de banque. Et si nous sommes allés nous fournir effectivement en prêt à l'étranger, c'est parce qu'aucune banque française n'a souhaité prêter au Rassemblement National. Et c'est d'autant vrai que c'était vrai pour ces élections européennes. On est un mouvement politique, M. Bellamy était dans le même cas, M. Dupont-Aignan était dans le même cas, les autres mouvements politiques étaient dans le même cas, à savoir qu'aujourd'hui, les banques françaises ne souhaitent plus prêter aux partis politiques. Lorsque Emmanuel Macron a été élu, ils ont voté pour une banque de la démocratie à laquelle ils ont renoncé, c'est-à-dire une banque qui permettrait de financer la vie politique. Je trouve que c'était une bonne décision, qui allait dans le bon sens. Aujourd'hui, effectivement, être dans l'opposition et trouver un prêt bancaire, c'est extrêmement compliqué, à l'heure où effectivement...
L'argent russe n'a pas d'odeur.
Financer. Mais arrêtez avec vos questions binaires. Non, mais vous avez une vision extrêmement renfermée du monde. Pour vous, c'est les gentils contre les méchants.
Il n'y a pas de problème à se financer auprès d'une banque russe proche, comme l'économie l'est en Russie. Du pouvoir, c'est pas une question binaire, c'est une question ouverte.
Oui, mais ce prêt, il a été fait à un taux d'intérêt de 6%. Bon, vous admettrez que c'est pas un prêt d'ami. Maintenant, la question que je vous pose, c'est n'êtes-vous pas choqué par le fait que le premier parti de France ne trouve pas de banque française pour faire un prêt?
Oui, non, mais merci. Vous l'avez dit. Bon, vous l'avez
ensuite,
dit.
Vous trouvez
aujourd'hui,
pas de banque
c'est interdit.
Au sein de l'Union européenne,
un tel prêt serait interdit. C'est pour ça que je vous pose la question.
Mais aujourd'hui, c'est interdit. Et d'ailleurs, ça nous met dans une situation difficile parce que il y a un vrai problème aujourd'hui. Effectivement, l'argent est devenu le nerf de la guerre en politique, et c'est bien dommage. Mais à partir du moment où vous avez aucune banque française qui souhaite prêter de l'argent à un parti d'opposition, ben oui, ça pose le problème. D'autant que nous sommes crédités en tête de ces élections européennes, que nous avons remporté plusieurs élections par le passé, et que nous sommes bien au-delà des 5% nécessaires pour le remboursement par l'État.
Revenons à l'Autriche. Marine Le Pen a parlé d'une faute lourde de la part du chef du FPE. Quelle est cette faute? Comment vous la qualifiez?
Il a manifestement été assez loin dans cette vidéo, qui était un montage.
Est-ce que ça
était,
veut dire...
Non, non, mais qui était un montage, parce que la faute est lourde,
oui, mais qui...
elle a été reconnue, il a été, évidemment, il en a tiré toutes les conséquences en se retirant. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas s'étonner qu'une vidéo qui a 2 ans, qui a été visiblement mise dans le frigidaire, sorte à une semaine des élections européennes ?
Mais avançons, parce qu'on a découvert quand même aussi quelles étaient ses intentions secrètes à travers cette vidéo montée dont vous parlez. Est-ce que ça veut dire que le RN rompt ses relations avec cet allié, c'est votre allié, le FPÖ autrichien ? Est-ce que vous rompez les relations
mais
avec lui ?
On va pas rompre... Enfin, si vous voulez, il s'agit d'une erreur d'une personne. Le FPÖ autrichien représente 25%. Le FPÖ détient dans le gouvernement de Sébastien Kurz, qui a été élu en 2017, plusieurs ministères. Bon, maintenant, moi, je ne cherche pas des clones. Nous cherchons des alliés. Et effectivement, nous avons beaucoup d'alliés sur la scène internationale, des alliés qui gouvernent. Ça a été vrai en Autriche, c'est vrai en Estonie, c'est vrai en Italie, où j'étais le week-end dernier, où nos alliés de la Ligue gouvernent. Et je peux vous dire que Matteo Salvini, en Italie, il a réussi à redonner confiance au peuple italien, à en croire sa cote de popularité. Et
donc, ça reste un allié. Je travaille avec un allié.
17%, il est aujourd'hui un allié.
Reste un allié.
Mais on aura, il s'expliquera d'ailleurs, on aura une réunion évidemment de bureau dans l'ensemble avec nos alliés hein, au sein du groupe après les élections européennes. Mais encore une fois, il a commis une lourde faute et il en a tiré les conclusions en se retirant à la fois du ministère et de la présidence du parti.
Alexandra.
Dans ces conditions, est-ce que vous allez réussir à créer ce grand groupe international souverainiste unique sur lequel vous faites campagne ? Donc il y a quand même cette éclaboussure autrichienne, on peut dire ça comme ça, et puis il y a aussi quand même des tensions avec, je pense aux Polonais, je pense aux Suédois, aux Finlandais, qui ne voient pas quand même votre proximité avec la Russie d'un très bon œil.
Non, je ne le crois pas. Encore une fois, je trouve que c'est une vision assez caricaturale. Bien sûr, nous y arriverons. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir un groupe aussi large. Les pronostics de vos confrères nous disent que nous pourrions passer du 8e au 3e groupe au sein de ce Parlement européen. Même Monsieur Juncker craint la poussée des partis souverainistes et l'influence qu'ils auront et que nous aurons demain au sein de ce Parlement européen.
Avec combien d'eurodéputés ?
Une influence. Mais nous verrons. Encore une fois, oui, ne parlons pas.
Parce
avant,
que vous parlez de statistiques.
Ne parlons pas avant les urnes. Dimanche, mais la réalité, c'est que nous avons des alliés partout et que l'Europe des nations, du bon sens, des souverainetés, des protections que nous défendons, elle est en train de se mettre en œuvre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est isolé sur la scène européenne.
Mais sans les Polonais, sans les Hongrois, on est d'accord.
Mais nous verrons.
Monsieur Orban n'a pas envie de se rapprocher de Marine Le Pen.
Mais vous savez, au-delà du groupe que nous allons constituer, ce qui compte, c'est la politique qui va être infléchie au sein de ce Parlement européen. Et c'est vrai que plus les souverainistes seront nombreux, plus ces partis du bon sens seront nombreux dimanche à siéger au Parlement européen, plus nous arriverons en masse et nous pourrons effectivement rejeter les traités de libre-échange ou la relocalisation des quotas de migrants qu'aujourd'hui.
Allez, on parle le programme, Jordan Bardella, si vous le voulez bien. Dans votre programme, quand on lit, on ne trouve aucun des mots suivants. Biodiversité, gaz à effet de serre, glyphosate, OGM, pesticides, réchauffement climatique, agriculture bio, énergie renouvelable. Et en 2016, le 4 octobre 2016, Marine Le Pen s'est abstenue lors du vote de ratification de l'accord de Paris sur le climat. Pourquoi ?
Bon, déjà, vous auriez dû lire le manifeste. Pas uniquement on a fait un programme assez succinct, également un manifeste qui détaille la vision qu'on a pour l'Europe. Sur l'écologie, nous,
pourquoi l'accord sur le climat ? Pourquoi l'abstention de votre chef de parti ?
On défend le localisme. On considère aujourd'hui que ce modèle économique, qui est basé sur le dogme de la libre concurrence et du libre-échange total, qui consiste à les faire produire très loin, à rapatrier en Europe pour ensuite aller retraiter en Afrique, que ce modèle est destructeur de la planète.
On en a déjà beaucoup parlé à l'antenne de ça. La question, c'est pourquoi votre chef de parti s'est abstenu sur l'accord sur le climat.
Je ne sais pas de quoi vous me parlez.
L'accord sur le climat.
Oui, non, mais d'accord, mais vous tirez un vote comme ça. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Ça, vous faites comme Madame Loiseau.
Alors, elle était eurodéputée et là, elle n'a pas voté la ratification de l'accord de Paris.
D'accord. Bon. Ensuite,
c'était le 4 octobre 2016.
Très bien, très très bien.
Vous le savez ?
Bravo. Non mais écoutez, je ne sais pas et je pense que ça n'intéresse personne.
Vous ne savez pas ce qu'a voté votre ou pas votre.
Mais vous savez combien de textes nous votons ?
C'est un accord majeur, un accord mondial.
Vous savez combien de textes on vote en une mandature ?
Je l'ignore.
Bon voilà, des centaines et des centaines. Bon, donc en l'occurrence, je ne sais pas de quel texte vous me parlez.
L'accord de Paris.
Mais je défends en matière écologique le localisme. Voilà. Parce que je considère aujourd'hui que ce modèle qui consiste à les produire très loin, rapatrier en Europe, retraiter en Afrique, est le pire ennemi de la planète. Donc nous, on considère qu'il faut aujourd'hui pouvoir produire raisonnablement tout ce qu'on peut produire chez nous, qu'on doit aujourd'hui produire, consommer, retraiter sur place, en faisant le patriotisme économique, en faisant que, par exemple, dans les cantines de nos collèges, de nos écoles, de nos lycées, on aille d'abord se fournir chez nos agriculteurs locaux, chez nos éleveurs, avant d'aller importer des produits alimentaires qui viennent du bout du monde. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème pour la planète. Ce modèle du du libre-échange total, c'est le pire ennemi de la planète et nous nous y sommes opposés. Donc il faut évidemment lutter et développer les circuits courts.
Donc ça s'appelle les circuits courts.
Tout à fait.
Au-delà de ces circuits courts, que faites-vous pour l'écologie? Que faites-vous? Que proposez-vous pour l'environnement, pour éviter le réchauffement du climat? Vous êtes succinct quand même. Vous dites on a un programme avec de l'écologie, mais
tout
honnêtement,
à
part le localisme, qu'est-ce qu'il y a dans votre programme?
Pardon, mais le localisme, c'est la refonte globale de notre modèle économique. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse payer, si vous voulez, par le contribuable.
L'écologie. Ma question porte sur l'écologie.
Oui, mais on
le
fait
climat.
Pas des. Oui, mais aujourd'hui, le problème de l'écologie, c'est aussi l'économie. Et à partir du moment où vous avez 60 000 super tankers qui traversent toute la planète pour aller approvisionner, chercher des marchandises de très loin, c'est cela qui crée la pollution. Or, aujourd'hui, un cargo de fret maritime pollue autant que l'intégralité du parc automobile français. Donc, si vous voulez, on peut pas faire d'écologie sans revoir notre modèle économique, sans revoir notre modèle de consommation. Il faut développer les circuits courts. Et puis en matière de transition énergétique, vous le savez, nous le disons, le nucléaire est peut-être aujourd'hui l'une des énergies les plus propres, une énergie décarbonée, quasiment décarbonée. Nous n'avons pas les moyens de nous en passer. On a mis beaucoup de moyens dans l'hydrogène. Je pense qu'il faut aller encore plus loin et investir sur les start-up françaises et sur la filière hydrogène.
On file au standard où Benoît nous attend et nous appelle. Bonjour Benoît.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci beaucoup de me passer l'antenne. Je voulais poser la question à Jordan Bardella de son positionnement par rapport aux OGM, très très précisément, qui nous explique, parce que j'ai entendu dire que le pari qu'avait fait Bayer, c'était pour le rachat de Monsanto, c'était que l'Europe passait basculer à droite et qu'il pouvait imposer assez rapidement, massivement, la culture des OGM avec le bras armé qui va avec, c'est le glyphosate.
Merci Benoît pour cette question. Jordan Bardella vous répond.
Bonjour monsieur, on doit pouvoir évidemment s'en passer, mais je pense qu'il faut pas être idéologue, faut être pragmatique, il faut que nos agriculteurs aient quand même des moyens de substitution. Sur le glyphosate, nous on est favorable à ce que on en sorte, mais il faut aussi être cohérent, c'est-à-dire qu'il faut avoir un produit de substitution pour les agriculteurs qui bien souvent en dépendent, et moi j'en ai rencontré dans le cadre de la campagne, et surtout être cohérent en interdisant l'importation de produits qui sont fabriqués à base de glyphosate. Parce qu'aujourd'hui le véritable problème, c'est que vous interdisez une substance pour nos agriculteurs et des substances OGM pour nos agriculteurs, et qu'en réalité avec ces traités de libre-échange qui sont négociés avec le monde entier, eh bien, ces produits se retrouvent quand même dans nos assiettes et dans nos marchés par l'importation. Dans le CETA, par exemple, qu'on a négocié avec le Canada, vous avez aujourd'hui 40 substances chimiques interdites qui ont été découvertes sur le sol européen et qui viennent directement du Canada par ces traités de libre-échange.
Alexandra, Yaël.
Vous voulez donc rétablir en quelque sorte les frontières sur le commerce, hein. Vous dites pas de libre-échange, vous voulez rétablir les frontières aussi pour les personnes, vous voulez de la souveraineté budgétaire. Jordan Bardella, ce que vous êtes en train de proposer aux Français, c'est la France d'avant l'Europe?
Non, c'est la France d'après cette Union européenne. C'est la France qui ferait ce que font 95% des pays du monde, à savoir défendre leurs intérêts d'abord, faire du protectionnisme économique quand c'est nécessaire et protéger leurs filières. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs dans le cadre de cette campagne qui, aujourd'hui, font face à des difficultés terribles parce que ils sont mis en concurrence avec des produits qui ne respectent pas les mêmes normes que les normes françaises, les normes européennes, parce qu'ils sont mis en concurrence avec des producteurs dont les productions valent 30 à 40% moins dans le cadre des producteurs bovins avec le CETA. Et tout cela crée une concurrence déloyale. Donc, moi, je vois pas. Si vous voulez, pour moi, la frontière, c'est pas un mur, c'est pas un barbelé, c'est un filtre, c'est une écluse qui doit permettre effectivement de corriger une concurrence déloyale. On peut avoir ensuite des accords économiques avec des pays qui ont le même niveau que le nôtre. L'Union européenne a négocié le JEFTA avec le Japon. Je veux dire, dans des filières où on a à peu près le même niveau économique, ça pose pas de problème de concurrence déloyale. Le problème, c'est quand vous êtes mis en concurrence avec des produits et des pays qui ne respectent pas ni les normes ni les coûts de production françaises et européennes.
Yael Goz, puis Ilias au standard.
Interview d'Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale ce matin. Il dit que vous avez voté contre tout ce qui est dans l'intérêt de la France. Évidemment, vous n'êtes pas des vrais sortants puisque vous étiez une force minoritaire au Parlement européen, mais vos votes sont instructifs. Quota de CO2 imposé aux entreprises, vous avez voté non. Rapport sur la pêche électrique, même chose. Plus de gardes frontières, vous avez dit non. Instaurer le fichier PNR pour lutter contre les risques d'attentats terroristes, non plus. Ça pose question quand même.
Non, ça pose pas question. C'est que ces textes, si vous voulez, renforcent les pouvoirs de la Commission européenne et un certain
Ils
nombre
aussi
de secteurs.
Protéger les Français.
Et un certain nombre. Mais oui, mais ça ne protège pas. C'est on nous reproche souvent d'avoir voté contre le renforcement de Frontex. Mais aujourd'hui, Frontex, qui est quand même censé charger lutter contre l'immigration clandestine, est une hôtesse d'accueil pour migrants. Frontex aujourd'hui finance des campements de migrants à Lesbos. Mykonos en Grèce. Et quand j'entends, si vous voulez, les propos, hier soir, les propos de Monsieur Avramopoulos, qui est le commissaire européen aux migrations, qui nous explique que l'immigration est un impératif moral et que l'Europe va devoir accueillir 6 millions de migrants supplémentaires dans les prochaines années, bah pardon de ne pas avoir envie de confier les clés de chez moi et les clés de ma maison à ces gens-là. Donc je crois qu'on a toujours été extrêmement cohérent. Maintenant, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il se comporte comme un chef de clan. Il se comporte comme le directeur de campagne de Madame Loiseau, alors que la Constitution et le rôle de président de la République qui est le sien devraient l'appeler à un peu plus de recul et de retenue vis-à-vis de ces élections européennes.
Il nous attend depuis un quart d'heure au standard. Ilias, bonjour, mille excuses, vous avez la parole.
Pas de problème. Bonjour Monsieur Demorand, bonjour messieurs, bonjour Madame.
Bonjour. Bonjour.
Alors la question que j'avais à poser à Monsieur Bardella, c'est pourquoi Monsieur Bardella parle-t-il de subversion migratoire dans ses discours, dans ses tweets, dans la mesure où le nombre de migrants a beaucoup baissé depuis 2015 et que le nombre d'arrivées en France, enfin il n'y a pas eu des millions de migrants accueillis contrairement en Allemagne. Voilà. Donc pourquoi parle-t-il de subversion migratoire qui ne semble pas avoir lieu ?
Merci Ilias pour cette question, Jordan Bardella.
Parce que la réalité est là et que nous accueillons en France chaque année. En fait, on a passé tous les records d'immigration cette année. Les 262 000 titres de séjour qui sont accordés, les 50 000 mineurs isolés. Un rapport parlementaire nous expliquait que dans mon département de la Seine-Saint-Denis, où je suis élu, où j'ai grandi, vous auriez 20 à 25% de la population qui serait présente de manière clandestine, c'est-à-dire près de 400 000 personnes. En réalité, on nous explique que le flux de migrants s'est tari. Mais moi, ce que je regarde, ce sont les chiffres des demandes d'asile et les chiffres des demandes d'asile augmente d'année en année. Ils étaient de 100 000 l'an dernier, 2017. Ils ont été de 122 000 en 2018. Or, une grande partie de ces personnes qui viennent sont déboutées du droit d'asile et ne sont pas reconduites à la frontière. La Cour des comptes nous le disait, vous avez 95% des déboutés du droit d'asile qui ne sont pas reconduits à la frontière et qui demeurent donc à la charge de la collectivité. Et moi, effectivement, dans un pays qui compte 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs, ben oui, je considère qu'on ne peut pas accueillir une immigration supplémentaire et qu'il faut réserver les moyens de l'État à nos compatriotes.
Quelques questions plus rapide d'actualité, Yael Gauz.
Coup de théâtre hier soir dans l'affaire Vincent Lambert, vous avez sans doute suivi ça, la Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des traitements. Sa mère salue une très grande victoire, ses avocats ont même fêté la décision hier soir. Vous, Jordan Bardella, c'est ce que vous espériez aussi ?
Je pense, c'est une conviction personnelle, que cette décision va dans le bon sens. C'est un dossier qui est évidemment complexe. La question qu'on peut effectivement se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que aujourd'hui une décision de justice, un juge peut décider si un homme doit vivre ou de ne pas vivre. Vincent Lambert, contrairement à ce qui peut être dit parfois, ne fait pas office d'un, ne subit pas un acharnement thérapeutique. Il est hydraté, il est soigné. Il y a des établissements spécifiques qui sont proposés de l'accueillir. Et effectivement, une décision qui viserait à couper les soins m'apparaît choquante et brutale.
Alors là, vous rejoignez les positions d'un François-Xavier Bellamy sur ce sujet. La vie à tout prix, même si c'est artificiel.
Mais je pense que c'est pas un sujet qui doit poser. C'est un sujet qui est éminemment complexe. Et je comprends évidemment moi la douleur des familles. Mais je vous dis, par principe, je suis attaché à la vie, à la dignité humaine.
Leïla est au standard. Leïla depuis Millau. Bonjour, vous êtes gilet jaune, dites-vous.
Oui, tout à fait. Je suis gilet jaune, humaniste. Je voulais savoir comment Monsieur Bardella pensait que nous convaincre de voter pour le Rassemblement National alors que il a plutôt des positions proches de la LERM ou enfin, en tout cas de la droite pour la non-redistribution des richesses produites par les travailleurs. Voilà. Pourquoi pas de redistribution?
Hausse du SMIC, vous pensez, voilà, hausse du SMIC, voilà, c'est ce que j'imaginais. Merci Leïla pour cette question. Jordan Bardella vous répond sur la hausse du SMIC.
Hausse du SMIC, nous on avait trouvé une autre solution parce qu'en fait, si vous augmentez le SMIC, ce sont les chefs d'entreprise et notamment les chefs de TPE, PME qui vont la payer. Donc nous on avait proposé une augmentation de l'ensemble des bas salaires inférieurs à 1500 euros par la prise en charge des cotisations sociales salariales, ce qui permettait d'aller beaucoup plus loin que l'augmentation du SMIC.
La prise en charge par qui?
Par les cotisations sociales.
Vous voulez faire prendre les cotisations sociales en charge par qui ?
Par l'État.
Donc par l'impôt des contribuables.
Oui, mais enfin, ce qui suppose de faire des économies ailleurs. Et c'est vrai que beaucoup des revendications qui étaient celles des Gilets jaunes trouvent un écho au sein de notre programme, parce que nous, on défend depuis des années le référendum d'initiative citoyenne. On s'est toujours opposé aux 80 km/h, à l'augmentation des taxes sur l'essence qui aujourd'hui reviennent, parce que le plein d'essence n'a jamais été aussi élevé que depuis le mois d'octobre. Donc, c'est une élection proportionnelle à un tour dimanche. En réalité, nous sommes la seule liste aujourd'hui qui est capable d'arriver devant celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le dit lui-même, si le Rassemblement National arrive devant lui dimanche, alors il ne pourra pas poursuivre sa politique comme il l'a conduit depuis maintenant 2 ans et demi.
Un mot.
Donc moi je dis aux Français, face aux humiliations, au mépris qu'a exprimé le chef de l'État à votre égard, allez voter dimanche pour la seule liste qui est capable d'arriver en tête et ne lui donnez pas les pleins pouvoirs. Voilà, envoyez-lui un signal fort.
Et réponse courte.
Question de bon sens, pourquoi vous voulez siéger dans une institution dont vous souhaitez au fond la disparition à terme?
Ah mais parce que en prendre le contrôle avec l'ensemble de nos alliés, me mettre autour de la table avec eux et rendre le pouvoir aux Français. Voilà, renégocier l'ensemble de ces traités, ce que nous ne pouvons pas faire avant parce que nous n'avions pas d'alliés. Or, aujourd'hui, cela est possible et nous voulons que chaque pays puisse décider ce qui est bon pour lui, son budget, faire du patriotisme économique et décider de sa politique migratoire.
On en reste là, Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National. Merci d'avoir
été
au micro de France Inter ce matin et bonne fin de campagne.
Merci.